Un jour, un livre, un auteur, Diego Rabal, Philippe Noni. La semaine dernière, on a parlé longuement du livre de Diego Rabal, qu'on rappelle, tiens, le titre.
Alors, c'est Illusion.
Illusion, voilà. Et alors,
aux éditions Arcane 17.
Et quand on a l'auteur qui parle de son livre, c'est magnifique. Aujourd'hui, sélection de deux bouquins, Philippe Noni, deux bouquins qui ont l'air complètement différents, mais je pense qu'il y a un point commun.
Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a un point commun. Et puis, bon, on arrive vers l'été, les vacances, le repos et du temps. C'est ça qui nous manque, du temps pour s'évader.
On va nous mettre les cliquets, vous savez, un peu.
Exactement. Et du temps pour s'évader, et quoi de mieux que la lecture pour partir loin dans l'espace et parfois dans le temps. Et on va voir effectivement avec ces deux livres qu'on va revenir dans le temps. Dans Un jour, un livre, un auteur, nous vous proposons une sélection de deux livres en rapport direct avec le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 mai 1945 en Europe et, on le rappelle, le 2 septembre 1945 en Extrême-Orient. Quand la guerre se termine en Europe, elle n'est pas terminée au niveau du Japon. Avec la réédition donc, du Japon, donc deux livres qui sont deux journaux écrits, l'un en Europe et l'autre aux Philippines. Le premier, ils partiront dans l'ivresse de la résistante, vous la connaissez forcément, Lucie Aubrac, en livre de poche, chez Point. Et au nom du Japon, du soldat japonais Hiro Onoda, dans la collection Le Livre de Poche. Deux journaux, deux histoires singulières que nous vous proposons de découvrir cet été durant vos congés de lecture réflexive. Pour ne pas oublier Philippe Supercase et Diego Rabal, que la paix n'est jamais, au grand jamais, un bien acquis. Alors, pourquoi ce choix? Quel est le lien entre ces deux ouvrages? C'est ce que vous me...
C'est la question que je vous ai posée.
C'est la question que vous me posiez
et
tout à l'heure.
Question intelligente que je vous ai posée.
Ah, mais ça, tu vois, très on ne pose que des questions intelligentes.
Et pas du tout préparées.
Et pas du tout préparées, exactement. Le lien qui relie ces deux ouvrages est que chacun d'entre eux est un journal qui rapporte la vie de deux protagonistes dans deux lieux très différents, mais deux lieux touchés par le deuxième conflit mondial. Nous allons commencer par l'histoire incroyable d'Hiro Onoda. Il faut savoir que c'est un soldat japonais qui refusa de croire à la reddition japonaise en 1945 et qui va continuer de résister, vous savez jusqu'en quelle année? Jusqu'en 1974. Il va continuer le combat, c'est une histoire assez incroyable, jusqu'en 1974, donc 30 ans passés dans la jungle, de 1944 à 1974, 30 années, il faut savoir, où l'on tenta en vain de lui faire prendre conscience que la guerre était terminée. On fit venir son propre frère dans l'île à deux reprises, celui-ci muni d'un haut-parleur harangua son frère pour le conjurer de se rendre, mais celui-ci, Hiro Onoda, donc pensa à un stratagème et continua la résistance. Écoutez plutôt cet extrait de la préface du journal « Au nom du Japon » d'Hiro Onoda en livre de poche qui montre combien ce soldat était dévoué corps et âme à l'empereur Hirohito. En décembre 1944, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'officier japonais Onoda est envoyé sur l'île philippine de Lubang avec la mission secrète d'y mener une guerre de guérilla. Il ne déposera les armes que 30 ans plus tard, en mars 1974. Le récit hors du commun qu'il donne de sa vie dans Au nom du Japon se lit comme la plus haletante des aventures humaines. Mais ce qui en fait toute la force, c'est qu'il s'agit avant tout du récit d'un homme plutôt que d'un soldat, quand bien même il écrit, je le cite, que sa mission était devenue toute sa vie. La reddition impossible, ce n'est pas celle du sous-lieutenant Onoda, mais celle de sa foi totale dans l'Empire du Japon et dans les valeurs absolutistes japonaises, aussi bien humaines que métaphysiques. Les prémices de ce qu'il a mené à conduire cette guerre de 30 ans sont elles-mêmes singulières. Formé dès sa jeunesse à la discipline du kendo, Onoda a grandi dans le Japon militariste des années 30. Comme il l'écrit au chapitre 8, l'un des plus hallucinants de son récit, « Combattez jusqu'au dernier souffle. Il faut protéger l'Empire à tout prix. 100 millions de morts pour le Japon. Ce sont les mots d'ordre avec lesquels J'ai grandi, écrira-t-il après 1974, quand il reviendra, et qu'il écrira ce livre. Hein, ça va être un vrai phénomène mondial, hein, lorsqu'il va revenir. Je ne sais pas si vous avez une réaction d'Igo Arabal et Philippe Subercase sur cette histoire, qui est quand même une histoire qui a 80 ans, hein, quasiment, aujourd'hui, hein, par rapport à son arrivée, effectivement, dans les îles.
Ça paraît incroyable, hein. Ouais, c'est fou, hein, qu'une personne ne savait pas que la guerre était finie, quoi.
Et persuadé, vous allez voir ce qu'il écrit en page 9. À partir du moment où effectivement il décide de ne pas se rendre, il écrit, donc sans le savoir, il entre dans une dimension inconnue dans laquelle il va bâtir un autre monde où l'Empire du Japon n'a pas perdu la guerre et où sa population n'a pas subi par deux fois les frappes nucléaires de l'ennemi. Il emploie bien plus souvent ce terme que celui d'Américain. Il ne parle jamais d'Américain, y compris lorsqu'il écrit le livre. Il parle effectivement d'ennemis. Il écrit par exemple « Je croyais sincèrement que le Japon ne se rendrait jamais tant qu'un seul Japonais serait encore en vie. Et réciproquement, si un seul Japonais était encore en vie, le Japon ne pouvait s'être rendu. »
C'est un aveuglement assez impressionnant.
C'est un aveuglement impressionnant et je voulais le présenter, voyez, Diego Arabal, parce que je trouve que l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, notamment avec les Infox, c'est comment des personnes, et lui, il est là-dedans, sauf qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, il est dans cet infox, effectivement, de s'être convaincu que le Japon ne peut pas se rendre. Et il va tenir pendant 30 ans. Je ne sais pas si vous voyez la force mentale qu'il faut pour refuser de se rendre pendant 30 ans. Et alors, vous allez voir un peu ce que ça génère, ce qu'il écrit, c'est quand même assez incroyable. Il écrit à un moment donné « Qui a dit que nous avions perdu la guerre ?» Les journaux prouvaient que c'était faux. Si nous avions perdu, tous les Japonais seraient morts. Le Japon n'existerait plus, sans même parler des journaux japonais. Car c'est en partie avec les journaux et magazines laissés volontairement par les nombreuses unités de recherche qui sillonnèrent en vain l'île de Lubang pendant 30 ans qu'Onoda construit son monde. C'est une histoire dingue. On lui laisse des journaux auxquels il ne croit pas. Et vous allez voir ce qu'il écrit. Dans le livre, il est écrit, cela prend même des accents comiques, par exemple, lorsqu'il en discute avec son camarade Kozuka, le dernier à se faire abattre par les soldats philippins, mais quasiment 20 ans après la fin de la guerre. Il écrit, un jour, Kozuka fit remarquer, quand on y pense, les Américains sont vraiment bons pour falsifier les émissions de radio. Pas vrai, parce qu'ils récupèrent un poste de radio. Et lui-même répond, « Oui, répondis-je, ils doivent enlever tout ce qu'ils ne veulent pas que l'on entende avant de rediffuser le tout quasiment en direct. Ils ont dû engager une équipe de gens très doués, juste une petite erreur, et tout le simulacre serait révélé. Je leur tire mon chapeau, ça doit être une tâche vraiment complexe. » C'est ce qu'il répond à son camarade, persuadé, mais on est 25 ans après, la fin de la guerre.
Oui, mais pour lui, il est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie d'un, une théorie du
la
complot.
La théorie du complot. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que je trouvais que cet ouvrage a une grande résonance avec effectivement ce qui se passe aujourd'hui. On est capable d'être dans un tunnel informatif où on va être effectivement, où on va croire des choses qui sont totalement fausses. On l'avait vu, vous savez, notamment pendant la Covid, sur le fait que les vaccins voilà, pouvaient tuer les gens, etc. Puis bon, en fait, on a vu que tout cela, effectivement, ne reposait absolument sur rien. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir. Hiro Onoda, au nom du Japon, hein, il y a un bandeau, c'est le journal du soldat japonais qui survécut 30 ans dans la jungle. Il faut savoir qu'au départ, ils sont plusieurs en 1944. Et puis, au fur et à mesure, les uns et les autres vont être tués. Puisqu'en fait, ils tentent de les retrouver. Hein, comme je vous l'ai dit, ils envoient même son frère qui l'appelle, il entend la voix de son frère. Et il se dit, il doit être prisonnier. Il doit être prisonnier, c'est un simulacre, ils font semblant que... Et il va trouver la libération grâce à un touriste japonais qui, en 1974, est au bord d'une rivière, qui voit arriver un homme donc, avec donc un uniforme qu'il a complètement refait et qui lui dit « Vous êtes Hiro Onoda ?» Et il se dit « Comment cet homme qui est beaucoup plus jeune que moi peut me connaître ?» Et il lui demande de le prendre en photo pour dire « Écoutez, je vais vous prendre en photo pour qu'on me croie que je vous ai vu. » Et lui fait comprendre qu'il n'arrêtera la guerre qu'à partir du moment où on enverra un officier qui lui remettra un courrier officiel du Japon, comme quoi on le relève de ses fonctions. C'est vraiment...
Hallucinant.
Assez, écoutez, il faut lire ce... Franchement, moi, quand je l'ai lu, c'est un roman fascinant. C'est un journal fascinant. Il faut vraiment le lire, vous vous dites...
Quelle est sa réaction une fois qu'il apprend effectivement que la guerre est finie depuis
un
moment ?
C'est terrible.
Et qu'il s'était mis dans la tête, il était complètement...
C'est terrible.
C'est là où la guerre est affreuse, parce qu'on peut complètement mettre dans la tête des gens des choses incroyables.
Alors, voilà. Il faut comprendre que lui, quand il est envoyé sur l'île de Lubang, il est envoyé pour y faire de la guérilla. Donc la guérilla, ce n'est pas une guerre où on est contre les soldats.
Ouais.
Il a été formé pour ça. Il a été formé pour intercepter des courriers, pour essayer de truquer des informations. Et donc il est persuadé que c'est lui qui manipule ce qu'il appelle les ennemis. Alors que pendant 30 ans, il va se manipuler lui-même sans le savoir. Et donc quand il repart en avion, par rapport à votre question, Philippe Subercas, qu'il voit à Lille...
Mais ce qui est fou, c'est que quelque part, n'importe quel soldat essaye d'avoir des informations de sa famille, des gens qu'il connaît. Et là, il s'est vraiment coupé du monde pendant 30 ans.
Ben, il s'est coupé du monde parce qu'il est persuadé que la guerre continue.
Oui.
Il a été, on lui a demandé, il a reçu l'ordre. Il faut bien comprendre qu'il est à l'époque de l'empereur Hirohito. Donc, il donne sa vie à l'empereur Hirohito. Il donne sa vie au Japon. Il est prêt à mourir pour le Japon. Et donc, il est dans cette configuration-là qui va l'aider à tenir pendant 30 ans. Hiro Onuda va mourir à l'âge de 92 ans. C'est quelqu'un qui va vivre très vieux. En dépit du fait que pendant 30 ans dans la jungle, il a la période des pluies où ils sont mouillés pendant 2 mois, 3 mois. Ils sont obligés de tout le temps se déplacer parce que l'armée philippine va les chercher pendant toute la période des 30 ans. Il est obligé de voler du riz, donc d'arriver, de tirer sur des villageois. Un jour, il rentre, il vole donc un poste de radio. Ils entendent donc la radio américaine, japonaise, etc. Tout, puis ils se disent, c'est pas possible. Et quand on leur ramène des journaux pour leur montrer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ils voient effectivement les informations internationales, la guerre de Corée, mais ils se disent la guerre continue. Toutes ces informations ne font que le renforcer, quoi.
Oui, surtout que je pense, quand ils ont été envoyés sur cette île, ils étaient plusieurs, c'était un commando qui était envoyé sur l'île, et je pense que leur objectif, c'était en fait de faire de la guérilla et de faire de la contre-information, et donc ils sont dans une logique intellectuelle, qu'ils sont aussi, alors eux ils font de la contre-information, mais ils sont aussi soumis à la contre-information de leurs ennemis.
Exactement.
Et, effectivement, ils sont dans un aveuglement, mais qui dit quand même pas mal de choses sur la façon dont l'Empire japonais fonctionnait dans les années 30.
Ah mais ça, tout à fait, complètement. Et vous voyez, lorsqu'il le dit au tout début du roman, ça s'appelle, au tout début plutôt de son journal, ça s'appelle Retrouvailles. Donc il a le major Taniguchi qu'il a commandé pendant la guerre. Ils vont l'envoyer à lui, parce qu'il veut recevoir ses ordres de lui, qui était son chef 30 ans auparavant. Vous vous dites, mais même dans un film, une fiction...
On dirait que ça a été tiré par les cheveux. Hein.
Ah ouais, on dirait que ça a été tiré par les cheveux, sauf que c'est vrai, quoi. Et voilà ce qu'il dit. Donc la personne qui le trouve, c'est Suzuki. Donc il met dans la tente, une ombre bougea, mais je continuais à marcher. Suzuki, donc l'homme qui le retrouve, les yeux exorbités par l'excitation, courut vers moi pour me serrer chaleureusement la main gauche. Je me suis arrêté une dizaine de mètres de la tente, de l'intérieur de laquelle une voix se fit entendre. « C'est vraiment vous, Onoda ? Je suis à vous dans une minute. » Je reconnus là le timbre du major Taniguchi. Sans bouger, j'ai attendu qu'il fasse son apparition. Suzuki s'est alors penché par l'ouverture dans la tente et en a sorti un appareil photo. À l'intérieur, le major était torse nu. Il a jeté un œil vers moi et a déclaré « Je suis en train de changer de vêtements. Attendez une minute. » Je ne sais pas si vous voyez, même là, c'est rocambolesque, là, la façon dont ça se fasse. Et il s'approche de lui, il lui dit « Lieutenant ». Donc, il s'approche plutôt du major. Et là, figé dans un garde-à-vous impeccable, j'ai hurlé « Lieutenant Onoda, major, à vos ordres !» 30 ans après. Vous imaginez ? C'est « Parfait », a répondu le major Taniguchi en s'approchant de moi pour me tapoter l'épaule gauche. « J'ai apporté ça pour vous de la part du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. » Il m'a tendu un paquet de cigarettes sur lequel était imprimé le chrysanthème du sceau impérial. Je l'ai accepté et je l'ai levé au-dessus de moi pour marquer comme il se doit mon respect pour l'empereur, puis j'ai reculé de 2 ou 3 pas. Le major Taniguchi a déclaré « Je dois vous lire vos ordres ». Et là, il lui lit ses ordres. Ordre de l'escadron spécial du chef du cabinet du quartier général, Bekabak, 19 septembre, 19h, en accord avec le commandement impérial, la 14e armée régionale a cessé tout combat. En accord avec le commandement militaire du quartier général numéro 2003, l'escadron spécial du chef de cabinet du quartier général est relevé de tout pouvoir militaire. Et là, quand il entend ça, c'est... Voilà, et puis qu'après on lui révèle la vérité, voilà. Et il va revenir au Japon, ça va être un monument vivant. Je veux dire, il va faire des conférences, sortir un livre, parcourir le monde, parce que cette histoire va être fabuleuse. Vraiment à lire, hein. Hiro Onoda, au nom du Japon, en livre de poche. C'est une histoire, voilà. Pour le 80e anniversaire de la fin de la guerre, hein, en septembre donc de cette année, à lire. Deuxième livre, je vous le disais, il me reste quelques minutes, Lucie Aubrac. Ils partiront dans l'ivresse. Est-ce que vous savez pourquoi c'est le titre de son journal,
Ils partiront dans l'ivresse. Non.
Je vais vous lire, elle le dit au tout départ de l'histoire, c'est très très beau, vous allez voir pourquoi elle a appelé ça. Ils partiront donc dans l'ivresse. En novembre 1980, en novembre 1943, en janvier puis février 1944, parmi les nombreux messages, sortes de phrases code que la BBC émettait de Londres en direction de la résistance française, l'un d'eux concernait la famille Aubrac. Pour des raisons météorologiques, l'avion anglais ne put atterrir en novembre 1943 et en janvier 1944 sur le terrain clandestin où l'attendait l'équipe de réception. Le 8 février 1944, par une nuit de pleine lune, l'avion était au rendez-vous. La BBC avait répété à ses 3 émissions de la journée « Ils partiront dans l'ivresse ». C'était le petit message qui leur indiquait qu'effectivement...
C'était le nom de code.
Le nom de code. Lucie Raymond Aubrac allait pouvoir partir dans l'ivresse vers l'Angleterre. C'est vraiment le journal voilà, de Lucie Aubrac où elle raconte toute cette histoire, comment elle a rencontré son mari, comment elle l'a sorti de prison, hein, comment elle a fait... Elle a monté un commando donc, pour sortir donc, son mari lorsqu'il est interrogé, donc il faut le savoir à l'époque, par Klaus Barbie. Hein, lorsque son mari est arrêté, il est avec Max. Max, c'est le nom de code de Jean Moulin.
D'accord.
Le mari Lucie Aubrac est avec lui lorsqu'ils sont arrêtés. Ils sont séparés. On connaît le destin de Jean Moulin qui mourra donc, dans un train en direction donc, de l'Allemagne après avoir été torturé. Il faut savoir que lui aussi, effectivement, sera torturé, Raymond Aubrac, et ils partiront. Et elle raconte effectivement toute cette histoire. Pareil, idem, hein, je l'ai dit, c'est un livre à lire dans le cadre du 80e anniversaire. Et ce qui est intéressant, c'est la fin de son journal, postface, 40 ans après, au début de 1983, je lis, la France a obtenu l'extradition puis le transfert à Lyon pour y être jugé de Klaus Barbie, qui fut le chef de la Gestapo dans cette ville pendant l'occupation. Et là, elle raconte comment elle vit, effectivement, le jugement de Klaus Barbie, qui, durant son jugement, va faire en fait le jugement de la résistance française. Et c'est vraiment un écho particulier, c'est pour ça qu'il faut le lire, parce que comme je le disais en exergue de cette émission, Philippe Subarcas et Diego Arrabal, la paix n'est jamais, et on le sait d'autant plus actuellement, la paix oui. n'est jamais un bien acquis définitivement.
Effectivement.
Jamais, jamais. Et lire ces deux livres pendant l'été au moment où on est en vacances, alors c'est des lectures réflexives, ça nous remet aussi les idées au clair pour ne pas oublier effectivement ces deux choses. Et on trouve que pour le 80e anniversaire dans Un jour, un livre, un auteur, que pour le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lire ces deux livres, Hiro Onoda, Au nom du Japon, en livre de poche, Lucie Aubrac, Ils partiront dans l'ivresse.
C'est de beaux livres. Et puis, c'est bien aussi que vous ayez mis Lucie Aubrac, parce que le rôle des femmes, quand même, dans la résistance.
Exactement.
On parle beaucoup des hommes, hommes qui se battent, mais le rôle des femmes, mais c'est incroyable, les femmes aujourd'hui, qui à la fois menaient des actes vraiment de résistance et à la fois protégeaient leur famille.
Il faut savoir qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'hommes ont été décorés.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été décorées. Elles ont joué un rôle dans la résistance pour transmettre des messages. Et on le voit notamment, il y a un passage de Lucie Aubrac qu'on va terminer là-dessus. Vous allez voir ce passage. C'est un des passages qui m'a le plus ému. Donc son mari a été interné.
Arrêté, oui.
Arrêté, et on pense qu'il va être emmené, transféré à la gare de Lyon. Donc, elle est chargée avec des résistants de surveiller le départ des trains parce qu'il y a des cheminots qui sont également résistants. Et voilà ce qu'elle écrit en page 113. Au bout d'une heure d'attente, un détachement de soldats allemands s'aligne sur le ballast le long du train. Puis arrive une colonne de gens civils. Ce sont sûrement des juifs. Tous à peu près bien vêtus, une valise à la main, comme pour un départ tranquille en vacances. Il monte dans les wagons, tandis qu'un Feldwebel active le mouvement. « Schnell, schnell !» Il y a là des hommes et des femmes de tous âges, des enfants aussi. Dans les rangs, une de mes anciennes élèves, Jeannine Crémieux. Elle s'est mariée en 1941, a eu un bébé ce printemps. Elle tient le poupon sur le bras gauche, une valise à la main droite. La première marche est haute, au-dessus de ce ballast caillouteux. Elle pose sa valise sur la marche, s'accroche d'une main au montant de la porte, n'arrive pas à se hisser. Le Feldwebel arrive en hurlant et lui envoie un coup de pied dans les fesses. Déséquilibrée, elle hurle. Son bébé a roulé par terre. Dérisoire, petit tas blanc gémissant. Je ne saurai jamais s'il a été blessé, car les copains m'ont tiré en arrière et bloqué les mains au moment où j'allais tirer. Voilà, j'en ai la chair de poule rien que de vous le lire. C'est un passage incroyable. Extrêmement fort, c'est-à-dire ils sont armés et elle, là, elle se dit non, je ne peux pas. Et en fait, quand ils voient qu'elle va tirer, parce qu'ils font ça à cette femme, et qu'au moment où ils le font ça, il faut savoir que Lucie Aubrac est enceinte. Elle est enceinte de son deuxième enfant. Et ce qu'elle voit là, elle réagit effectivement en tant que femme et aussi en tant que mère. Ouais. Vraiment, moi je recommande aux auditrices et aux auditeurs de se procurer de ces deux livres, de les lire, et de les mettre en perspective avec la période, effectivement, que l'on vit actuellement. Ce qu'elle dit à l'intérieur, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde et ne jamais renoncer.
Et puis, voilà, ça me rappelle l'interview qu'on a fait avec, il y a quelques semaines, avec René Truss, qui est vice-président aujourd'hui de la Ligue de l'enseignement 65 et qui organise le Mai du Livre. Il nous donnait un chiffre qui fait des fois un peu peur. Hein. 80% des livres qui sont aujourd'hui en circulation en France, ne sont lus que par 8%.
Eh oui, non, mais c'est clair. J'ai terminé, vous voyez, sur cette phrase. C'était un commentaire du Nouvel Observateur, du journal Le Nouvel Observateur, lorsque ce livre est sorti. Voilà le commentaire qu'ils ont fait. D'école en collège et en université, Lucie Aubrac allait apprendre aux plus jeunes qu'il n'est d'impossible que ce qu'on n'a pas tenté de surmonter. Et voilà, je voudrais qu'on termine cette émission sur cette phrase. Parce que dans cette perspective actuelle, j'ai trouvé que c'est une vraie leçon de vie que de lire Lucie Aubrac, qu'ils partiront dans l'ivresse, qui est, je le répète, pour celles et ceux qui ont repris l'émission en cours de route, le petit message donné par la BBC pour leur dire effectivement qu'ils vont pouvoir quitter la France. Toum, 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 petit message personnel, ils partiront dans l'ivresse, répété 3 fois dans la journée, avant que dans la nuit qui suive, ils soient emmenés. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Lucie Aubrac est enceinte et va accoucher. Donc, une semaine après. Je ne sais pas si vous voyez, donc elle part dans des conditions qui sont...
Et son mari a été arrêté et va
torturé.
Mourir, et torturé et mourir quelques temps après.
Alors, le mari Raymond Aubrac, non, en fait, ne mourra pas. C'est Max Jean Moulin qui mourra. Ouais. Voilà, son mari, en fait, on lui demandera, effectivement, il est appelé par le général de Gaulle. Il va jouer un rôle considérable dans le Conseil national après
de la
résistance. Voilà, et ce sont deux personnes qui, après la guerre, ont voué leur vie à ce devoir de mémoire. Vous savez, on en parlait l'autre jour avec Diego Arrabal dans le roman qu'il a fait où il disait que lui, par rapport à la Reiterada, il a un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, comme aujourd'hui, il n'y a plus de témoins, ça va être à nous bientôt, effectivement, que de le faire. Et on veut aussi faire ça sur présence, vous voyez, d'un jour un livre, un auteur. Ne pas oublier, ça fait partie de ce que j'appelle, moi, des lectures réflexives. Donc, Hiro Onoda, Au nom du Japon, voilà, le journal d'un soldat japonais.
Paru à quelle édition ?
Alors, donc un livre de poche.
Oui.
D'accord, un livre de poche, resté pendant 30 ans dans la jungle de 1944 à 1974, persuadé que la guerre n'était pas terminée. Et Lucie Aubrac, ils partiront dans l'ivresse en livre de poche. On continuera à la rentrée, hein, au mois de septembre, on va en parler, et on parlera notamment d'un livre écrit, peu de gens le savent, par Jean Moulin, en 1940. Sur l'accueil des Allemands, où Jean Moulin, pour la première fois, commencera à résister aux Allemands et sera torturé. On en reparlera en 1940, lorsqu'il y a un bombardement allemand. Et on veut faire croire que ce bombardement, c'est pas un bombardement, que ce sont des soldats noirs français qui ont violé et mutilé effectivement ces personnes. On lui demandera de signer un papier. Il refusera. Il le raconte dans ce livre qui paraîtra après la guerre, que sa sœur fera paraître donc après la guerre, où il raconte qu'il est torturé par les Allemands, qu'ils veulent lui arracher une signature en tant que préfet et qu'il refuse. Ça sera son premier acte de résistance, c'est plus connu, mais on en parlera toujours dans le cadre du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.